Chapitre 54. Les métamorphoses de l'amour. Abandonnons momentanément toute la partie de notre récit qui se rapporte à Justin, à Mina, au général Le Bastard, à Dominique, à M. Saranti, à M. Jacal et à M. Gérard, et faisons volte-face, entrons dans l'atelier de ce Mohican de l'art que nous connaissons sous le nom de Pétrus. C'était le lendemain ou le surlendemain de la visite de M. Jacal à M. Gérard, car on comprendra qu'il nous est impossible, à un jour près, de renseigner positivement nos lecteurs. Nous suivons l'ordre chronologique des événements, voilà tout. Il était 10h30 du matin. Pétrus, Ludovic et Jean-Robert étaient assis. Pétrus dans une bergère, Ludovic sur un fauteuil Rubens, Jean-Robert dans un immense Voltaire. Chacun d'eux avait à la portée de sa main une tasse de thé plus ou moins vide, et dans le milieu de l'atelier, une table encore servie indiquait que le thé était employé comme digestif à la suite d'un déjeuner substantiel. Un manuscrit écrit en lignes inégales, en vers par conséquent, dont les cinq actes séparés gisaient confusément à terre, à la droite de Jean-Robert, prouvait que le poète venait de faire une lecture, et avaient, les uns après les autres, jeté les cinq actes par terre. Le cinquième, depuis 10 minutes à peu près, était allé rejoindre ses compagnons. Ces cinq actes avaient pour titre « Guelfes et Gibelins ». Avant de les aller lire au directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, pour lequel il espérait obtenir l'autorisation de jouer une pièce en vers, Jean-Robert avait lu son drame à ses deux amis. La pièce avait eu un immense succès de lecture auprès de Ludovic et Pétrus. Artistes tous deux, ils avaient pris un intérêt profond à cette sombre figure de Dante encore jeune, maniant l'épée avant de manier la plume, et qui se déroulait merveilleusement au milieu de grandes luttes de l'art de l'amour et de la guerre. Amoureux tous deux, ils avaient écouté cette œuvre d'un autre amoureux avec les oreilles de leur cœur. Ludovic songeant à son amour en bouton, Pétrus respirant son amour en fleurs. La douce voix de Béatrix avait retenti à leurs oreilles, et tous trois, après s'être fraternellement embrassés, s'étaient assis et méditaient silencieusement. Jean-Robert rêvait à Béatrix de Marante, Pétrus à Béatrice de la Motte-Houdan et Ludovic à Béatrix, rose de Noël. Béatrix n'est point une femme, c'est une étoile. Le propre des œuvres grandes et fortes est de faire rêver les âmes grandes et fortes. Seulement, selon leur disposition, elles font rêver les uns du passé, les autres du présent, les autres de l'avenir. Jean-Robert rompit le premier le silence. « D'abord, dit-il, merci pour tout ce que vous venez de me dire de bon. Je ne sais, Pétrus, s'il en est pour toi d'un tableau comme il en est pour moi d'un drame. Lorsque je rêve un drame, que le sujet se dessine, que les scènes se coordonnent, que les actes s'échafaudent dans ma tête, tous mes amis me diraient que mon drame est mauvais, que je n'en croirais pas un mot. » Lorsqu'il est fait, que j'ai passé 3 mois à le composer, 1 mois à l'écrire, il faut que tous mes amis me disent qu'il est bien, pour que j'y croie. Eh bien, dit Pétrus, il en est justement de mes tableaux comme toi de tes drames. Sur la toile blanche, ce sont des Raphaël, des Rubens, des Van Dyck, des Murillo, des Velasquez. Sur la toile barbouillée, ce sont des Pétrus, c'est-à-dire des croûtes que leur auteur estime médiocrement. Que veux-tu, mon cher? C'est la différence qu'il y a entre l'idéal et la réalité. Moi, dit Ludovic, ce que je trouve adorable dans ton drame, vois-tu, c'est la figure de Béatrix. Vraiment, dit Jean-Robert en souriant. Quel âge lui donnes-tu? C'est une enfant. Je lui donne 14 ans, quoique l'histoire dise qu'elle est morte à 10. L'histoire est une sotte, dit Ludovic, et cette fois, elle a menti comme toujours. Une enfant de 10 ans n'eût pas creusé un sillon si lumineux dans le cœur de Dante. Je suis de ton avis, Jean-Robert. Béatrix devait avoir au moins 14 ans. C'est l'âge de Juliette, c'est l'âge auquel on aime, c'est l'âge où l'on peut commencer à être aimé. Mon cher Ludovic, dit Jean-Robert, veux-tu que je te dise une chose? « Laquelle ?» répondit Ludovic. C'est que je m'attendais que toi, homme positif, homme de science, esprit matérialiste, enfin, ce qui te frapperait le plus dans mon drame, c'est l'étude de l'Italie au XIIIe siècle. C'est la vérité des mœurs, c'est l'exposition de la politique florentine. Pas du tout, voilà que ce qui t'intrigue, c'est l'amour de Dante pour une enfant. Voilà que ce que tu suis, c'est le développement de cet amour et l'influence qu'il a sur la vie de mon héros. Voilà que ce qui t'intéresse, c'est la catastrophe qui enlève Béatrix à Dante. Je ne te reconnais plus, Ludovic. Est-ce que tu serais amoureux par hasard? Ludovic rougit jusqu'au blanc des yeux. Ah, par ma foi, s'écria Pétrus, il l'est. Regarde plutôt. Ludovic se prit à rire. Eh bien, dit-il, quand je le serai, lequel de vous deux m'en ferait un reproche? Oh, ce ne serait pas moi, dit Pétrus, au contraire. Et moi donc, dit Jean Robert. Seulement, je te dirai, mon cher Ludovic, reprit Pétrus, que c'est mal d'avoir un secret pour des gens qui n'ont point de secret pour toi. Eh, mon Dieu, dit Ludovic, le secret, si secret il y a, j'ai à peine eu le temps de me le confier à moi-même. Comment voulez-vous que je vous l'aie confié à vous autres? À la bonne heure, voilà qui t'excuse, dit Pétrus. Puis enfin, c'est peut-être quelqu'un qu'il ne peut pas nommer, dit Jean Robert. À nous, dit Pétrus, le nommer à nous, ce n'est pas le nommer. Et puis, dit Ludovic, je vous jure que je ne suis pas encore bien sûr de quelle façon j'aime celle que j'aime, si c'est comme une sœur ou comme une maîtresse. Ah, bon, s'écria Jean Robert, c'est comme cela que débutent toutes les grandes passions. Allons, dit Pétrus, avoue tout simplement, mon cher, que tu es amoureux fou. C'est possible, dit Ludovic, et surtout, dans ce moment-ci, ta peinture, Pétrus, m'a ouvert les yeux. Tes vers, Jean Robert, m'ont ouvert les oreilles, et je ne serais pas étonné demain que je prisse un pinceau pour essayer de faire son portrait ou une plume pour lui faire un madrigal. Eh, mon Dieu, c'est l'éternelle histoire de l'amour, que l'on prend pour une fable, pour une légende, pour un roman, tant qu'on ne la lit pas avec des regards amoureux. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la science? Même à côté de l'amour, la science, la philosophie et l'art ne sont que des formes du beau, du vrai, du grand. Or, le beau, le vrai, le grand, c'est l'amour. Eh bien, à la bonne heure, dit Jean Robert, quand on y mord, c'est comme cela qu'il faut y mordre. Et peut-on savoir, demanda Pétrus, quel est le rayon de soleil qui t'a fait sortir de ta chrysalide, beau papillon? Oui, sans doute, vous le saurez, mes amis, mais le nom, mais l'image, mais la personne elle-même sont encore enfermées dans les plus mystérieux arcanes de mon cœur. Le secret me suffit encore. Eh, mon Dieu, soyez tranquille. Il y a un moment où mon secret ira de lui-même frapper à votre cœur et vous demandera l'hospitalité. Les deux amis sourirent et tendirent la main à Ludovic. Et puis Jean Robert se pencha, ramassa les 5 actes et les roula. En ce moment, le domestique de Pétrus entra, annonçant que le général Herbel était en bas. Ah, qu'il monte donc vite, ce cher oncle, cria Pétrus en se précipitant vers la porte. Monsieur le comte, dit le domestique, rentrez dans les écuries en me disant de ne pas déranger monsieur. Pétrus, dirent les deux jeunes gens, prenant chacun leur chapeau et s'apprêtant à sortir. Mais non, dit Pétrus, mon oncle aime généralement la jeunesse, et il vous aime tous deux en particulier. Ah, c'est possible, dit Ludovic, et je lui en suis parfaitement reconnaissant, mais il est 11 heures et demie, et Jean Robert lit sa pièce à midi, à la porte Saint-Martin. Bon pour Jean Robert, dit Pétrus, mais toi, tu n'as aucun besoin de t'en aller à cette heure-ci. Ah, je te demande des millions de pardons, cher ami. Ton atelier est charmant, vaste, suffisamment aéré pour des gens amoureux depuis 6 mois ou 1 an, mais pour un homme amoureux depuis 3 jours, il est inhabitable. Par ainsi, adieu, cher ami. Je vais me promener dans les bois tant que le loup n'y est pas. Allons, viens, Cupidon, dit Jean Robert en prenant le bras de Ludovic. Adieu donc, très cher, dit Pétrus avec une légère nuance de tristesse. Qu'as-tu donc? Demanda Jean Robert, qui, moins préoccupé que Ludovic, remarqua cette tristesse. Moi, rien. Si fait. Rien de positif, du moins. Voyons, dis-nous cela. Que veux-tu que je te dise? À cette annonce de la visite de mon oncle, il me semble qu'il a passé quelque chose de menaçant dans l'air. Il me vient voir si rarement, ce cher oncle, que j'éprouve toujours une certaine inquiétude quand on me l'annonce. Diable, dit Ludovic, s'il en est ainsi, je reste et je te servirai de paratonnerre. Non, mon véritable paratonnerre, cher ami, c'est l'affection réelle que mon oncle me porte. Ma crainte est absurde et mes pressentiments n'ont pas de sens commun. Ah, d'ailleurs, à ce soir, ou demain au plus tard, dit Ludovic. Et moi, plus tôt, encore probablement, je reviendrai te dire le résultat de ma lecture. Les deux jeunes gens prirent congé de Pétrus, et en arrivant à la porte, Jean-Robert monta dans son tilbury, offrant à Ludovic de le jeter où bon lui semblerait. Mais le jeune docteur refusa, disant qu'il avait besoin d'aller à pied. Et en effet, tandis que Jean-Robert tournait par la place de l'Observatoire, Ludovic suivait les boulevards jusqu'à la barrière d'enfer et s'en allait, songeant dans les bois de Verrières, où nous le laisserons seul, puisqu'il semble en ce moment rechercher tout particulièrement la solitude, et que d'ailleurs Pétrus et son oncle nous attendent. Le général Herbel venait assez rarement chez son neveu, mais il n'y venait jamais, c'est une justice à lui rendre, sans apporter, sous une forme ou sous une autre, le plus souvent sous la forme de la raillerie, un petit sermon dans le pli de son manteau. Il n'était pas venu depuis 4 ou 5 mois, c'est-à-dire depuis le temps à peu près où il s'était fait un grand changement dans l'existence de Pétrus. Aussi, en entrant, devait-il marcher de surprise en étonnement et d'étonnement en stupéfaction. Lors de sa dernière visite, la maison était encore ce qu'il avait vu la première fois, c'est-à-dire une maisonnette propre, avec une cour pavée, ornée d'une petite île de fumier pour le divertissement de 6 ou 7 poules et d'un coq qui, du haut de son promontoire, avait salué le général de son chant le plus aigu, et d'une cabane à lapins, lesquels étaient nourris du supplément de la salade et des choux de tous les locataires de la maison, heureux d'abandonner ce superflu à des animaux qui faisaient, au jour de fête, les délices de la table de la portière. Dans ce quartier de Paris, entouré d'arbres de tous côtés, cette maisonnette ressemblait bien plus à un de ces chaumes qu'habitent nos paysans qu'à une maison de ville. Mais simple et propre, isolée et presque même déserte, elle était aux yeux du général l'abri le plus sûr, la retraite la plus paisible qu'il pût souhaiter à un travailleur. Or, la première chose qui frappa le comte Herbel et qui, en le frappant, le surprit, ce fut, une fois la porte, fraîchement peinte, ouverte sous son coup de marteau, de voir un domestique à la même livrée que les siens, c'est-à-dire aux couleurs des Courtenay, se présenter à lui et lui demander « Que désire monsieur ?»« Comment ce que je désire coquin ?» dit le comte en toisant le laquais de la tête aux pieds. « Mais je désire voir mon neveu, puisque je suis venu pour cela. » « Ah, dans ce cas, monsieur le général comte Herbel, » dit le valet en s'inclinant. « Naturellement, je suis le général comte Herbel, » répéta le général d'un ton gouailleur, « puisque je te dis que je viens voir mon neveu, et que mon neveu, que je sache, n'a pas d'autre oncle que moi. Ah, »« Je vais prévenir monsieur, » dit le domestique. « Est-il seul ?» demanda le général en prenant son lorgnon pour regarder la cour, sablée en sable de rivière, au lieu d'être, comme autrefois, pavé en grès. « Non, monsieur le comte, il n'est pas seul. »« Une femme ?» dit le général. « Ses deux amis, messieurs Jean-Robert et Ludovic. » « Ah, bon, 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 prévenez-le que je suis ici. Je monterai tout à l'heure, je veux visiter un peu la maison. Cela me paraît charmant ici. » Le domestique monta chez Pétrus, comme nous avons vu. Resté seul, le général put lorgner et examiner tout à son aise les divers changements et embellissements qu'avait subi la maison et la cour de son neveu, ou plutôt habité par son neveu. « Oh, dit-il, le propriétaire de Pétrus a fait faire, à ce qu'il paraît, des améliorations à sa bicoque. Un petit parterre de fleurs rares où était le fumier, une volière avec des perruches vertes, des pans blancs et des cygnes noirs où était la cabane à lapins, enfin des écuries et remises, là où il y avait tout simplement un hangar, hein, par ma foi, voici des harnais qui me semblent bien tenus. » Et, en amateur qu'il était, il approcha le porte-harnais sur lequel chevauchaient les objets qui avaient attiré son regard. « Ah, dit-il, les armes des Courtenay, alors ces harnais sont à mon neveu. Ah ça, aurait-il en effet un oncle que je ne connaîtrais pas, et aurait-il hérité de cet oncle ?» Tout en monologuant ainsi, le général faisait une figure plus surprise qu'ennuyée, plus étonnée que soucieuse. mais après être rentré sous la remise et avoir regardé avec attention un élégant coupé de Bender, après être entré dans l'écurie et avoir passé la main sur l'épine dorsale de deux chevaux achetés selon toute probabilité chez Drake, le général devint pensif et son visage prit une expression d'indéfinissable tristesse. « Belle bête, murmurait-il tout en caressant les chevaux, voilà un attelage qui vaut 6 000 francs comme un liard. Ah ça, mais est-il bien possible que ces chevaux-là appartiennent à un pauvre diable de peintre qui gagne à peine 10 000 francs par an ?» Et le général, croyant s'être trompé dans son investigation des armes des harnais, alla examiner les armes de la voiture. C'était, pardieu, bien les armes des Courtenay, surmontées d'une couronne ou plutôt d'un tortil de baron. « c'est bien cela, murmura-t-il. Moi, comte, son corsaire du père vicomte, lui, baron. Ah, c'est bien heureux qu'il se soit contenté du tortil et qu'il n'ait pas pris la couronne fermée. » Et au bout du compte, ajouta-t-il, l'eût-il prise, il en a le droit, puisque nos aïeux ont régné. Après quoi, jetant un dernier regard sur les chevaux, sur les harnais, sur la volière, sur les fleurs et sur le sable, roulant sous ses pieds comme des perles, il monta l'escalier de son neveu. Mais, arrivé au premier étage, il s'arrêta, et, passant sa main sur ses yeux comme pour essuyer une larme, « Ah, mon pauvre Pierre, murmura-t-il, est-ce que ton fils serait devenu un malhonnête homme ?» Pierre, c'était le frère du comte Herbel, celui que, dans ses boutades, il gratifiait du titre de jacobin, de pirate, d'écumeur de mer. Au moment où le comte Herbel achevait ces mots et essuyait clandestinement l'alarme dont ils étaient accompagnés, il entendit descendre rapidement l'escalier qui conduisait du premier au second étage, tandis qu'avec son plus joyeux accent, la voix de son neveu criait « Ah, bonjour, cher oncle, pourquoi donc ne montez-vous pas ?»« Bonjour, monsieur mon neveu, » répondit sèchement le comte Herbel. « Oh, comme vous me dites ça, mon oncle, » fit le jeune homme étonné. « Que veux-tu, je te le dis comme je le sens, » repartit le général en prenant la rampe et en continuant de monter l'escalier. Et puis, sans ajouter un mot, il entra, choisit de l'œil le meilleur fauteuil et s'il laissa tomber avec un ouf de mauvais augure. « Allons, allons, » murmura Pétrus, « je ne m'étais pas trompé. » Et puis, s'approchant du général, « Mon cher oncle, lui dit-il, permettez-moi de vous dire que vous ne me paraissez pas ce matin de très bonne humeur. » Non, certes, dit le général, je ne suis pas de bonne humeur et c'est mon droit. Je suis loin de vous contester ce droit-là, mon cher oncle, et je connais assez votre égalité de caractère pour me dire à moi-même que si vous êtes de mauvaise humeur, ce n'est pas sans raison. Et vous dites la vérité, monsieur mon neveu. Auriez-vous reçu dès l'aurore une visite désobligeante, mon oncle ? Non, mais j'ai reçu une lettre qui m'a fait de la peine, Pétrus. Ah, j'en étais sûr, je parie que c'est une lettre de la marquise La Tournelle. Ce ton de légèreté est inconvenant, Pétrus, et permets-moi de te rappeler qu'en ce moment tu manques de respect à deux vieillards. Pétrus, qui s'était assis sur un pliant, se releva comme si un ressort l'eût remis debout sur ses jambes. « Excusez-moi, mon oncle, dit-il, vous m'effrayez, je ne vous ai jamais entendu parler avec cette dureté. » C'est que jamais, Pétrus, je n'ai eu à vous faire de reproches aussi sérieux que ceux que j'ai à vous faire aujourd'hui. Croyez, mon oncle, que je suis prêt à les recevoir avec la soumission que je vous dois, et surtout avec le regret de les avoir mérités, car du moment où vous me les faites, mon oncle, c'est que je les mérite. Vous en jugerez vous-même. Écoutez-moi donc sérieusement, Pétrus, comme je vais vous parler. Je vous écoute. Le général fit signe à son neveu de se rasseoir, mais celui-ci, d'un autre signe, lui demanda la permission de rester debout. Il attendit donc l'accusation dans la posture d'un criminel devant son juge.